L'art contemporain.
Oui, alors, en parlant d'art moderne d'ailleurs, il faut dire que le public fait souvent l'amalgame entre l'art moderne et l'art contemporain. Il faut dire que l'art contemporain se divise en deux trajectoires, et comme je vous l'ai dit, ce public fait souvent l'amalgame entre les deux. Alors la première trajectoire, c'est l'art plastique, c'est-à-dire l'art moderne, issu de l'héritage culturel, et qui évolue en fonction de la personnalité de chacun. La deuxième trajectoire, c'est l'art conceptuel, qui, issu du dadaïsme, nous allons voir ce que c'est d'ailleurs, avec le ready-made, refuse l'héritage culturel. Alors pour en trouver l'explication, il faut remonter à 1917 à New York, et cette politique de la table rase a favorisé ce demi-siècle d'immobilisme artistique. D'ailleurs, un art qui n'en est pas un mène à l'imposture, tout le monde en est conscient. Mais le n'importe quoi, comme je dis, n'est pas éternel, heureusement pour nous. Alors bien sûr, là, vous voyez sur l'écran « Le déjeuner sur l'herbe » d'Édouard Manet. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça vient faire dans l'art contemporain? Mais j'ai essayé de démarrer par cette toile, parce que pour bien comprendre la suite, on est bien obligé de parler de ce déjeuner sur l'herbe. Alors ce déjeuner sur l'herbe a été refusé en 1863, a été refusé par le jury du salon officiel, ainsi que celle des peintres dits impressionnistes. Alors, ces peintres impressionnistes, considérés un petit peu comme des avant-gardistes désobéissants, parce que leur tendance ne correspondait pas du tout à ce qu'en attendaient les officiels de l'époque. Alors, en effet, le politiquement correct à l'époque était l'art académique, l'art pompier, et c'était un petit peu comme des gens comme Bouguereau, qui étaient des super-pompiers de l'époque, et qui correspondaient un petit peu aujourd'hui, qui était considéré un petit peu comme le Daniel Buren de l'époque. C'est-à-dire, Daniel Buren, c'est vrai qu'avec ses colonnes, on peut dire qu'il fait partie des peintres officiels, enfin des artistes officiels. Alors ces peintres impressionnistes, étant bien décidés d'ailleurs de montrer au public leur travail, organisèrent ce fameux salon, dit salon des refusés, parallèlement au salon officiel. Alors bien sûr, l'exposition fit scandale. Et paradoxalement, ce fut ce fameux déjeuner sur l'herbe, d'ailleurs, qui provoqua le plus d'indignation du public et également des officiels. Alors pourquoi? Ben, parce que les petits puritains de l'époque considéraient ce sujet provoquant, c'est-à-dire trop osé. Et il faut dire que si on regarde bien le sujet, bon, vous avez deux étudiants habillés, deux rapins d'ailleurs, qui étaient des étudiants des Beaux-Arts, en compagnie de deux dames, dont une est complètement nue au premier plan devant un déjeuner, et l'autre qui se rafraîchit dans l'eau d'une rivière. Il faut dire qu'à l'époque, il n'en fallait pas plus pour choquer ce public, ces petits bourgeois de l'époque. Alors, je dois dire que Manet n'avait pas peint que cette toile, d'ailleurs. Il avait peint également, la même année, le déjeuner sur l'Olympia, d'ailleurs, qui a été d'ailleurs refusé à peu près pour les mêmes raisons. Alors l'impressionnisme, il faut vous dire que l'impressionnisme a été, je crois, un peu précipité à l'époque avec la découverte de la photographie. Il faut dire que les peintres, les portraitistes surtout de l'époque, étaient très inquiets de savoir qu'un appareil allait faire un peu leur boulot et ils voyaient un peu leur commande menacée par cet appareil photo. Je pense qu'il n'y avait pas que ça, mais la peinture a dû servir quand même à l'évolution de la peinture. Il fallait absolument trouver une évolution dans l'art plastique qui fasse que un appareil ne pourrait pas faire le travail que faisaient les artistes. Et c'est-à-dire que le travail sur la couleur, le travail sur le spectre solaire, comme le faisaient Manet, Monet et les autres, bien sûr, était beaucoup plus moderniste que ce fameux travail très polissé et très près de la réalité. Alors à propos de ces impressionnistes, d'ailleurs, il faut savoir qu'Émile Zola écrivit une phrase qui faisait mal d'ailleurs, « Le rire de l'imbécilité bourgeoise ». Et bien sûr que cette phrase, par la suite, a dû en culpabiliser quelques-uns. Et c'est ainsi que la situation a fini par totalement s'inverser entre l'époque du Salon des Refusés et notre époque. Si bien que ceux qui croient défendre l'art qui subvertit défendent en réalité l'art officiel et ils le font avec l'interdiction que caractérisait la défense de l'art académique face à Manet. Alors qui s'étonnera évidemment du retournement de symétrie inversée ? Eh bien c'est le côté plaisant et fallacieux de la sempiternelle comédie, comme l'écrit d'ailleurs Jean-Philippe Domecq dans son essai « Misère de l'art ». Alors, nous venons évidemment de jeter un très rapide coup d'œil sur l'impressionnisme. Nous allons maintenant, si vous le voulez bien, entrer dans le vif du sujet avec la préhistoire de l'art contemporain, que fut le futurisme et le dadaïsme. Alors, le futurisme, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce futurisme était un mouvement littéraire et artistique, d'ailleurs, italien, qui est né en 1909, mais qui n'a pas duré tellement longtemps, puisqu'il a été dissous en 1914. Alors, ce mouvement, disons, futuriste, a frappé très fort, d'ailleurs, puisqu'ils étaient déjà, à l'époque, ils en étaient pour la démolition des musées. Alors, vous voyez que le dadaïsme, après, a pris la suite de ce mouvement. Et en réalité, comme je vous le disais tout à l'heure, dès le début, le mot « contemporain » est impropre finalement, parce qu'il met sur le même plan le mouvement Dada et son refus de l'héritage, avec un art issu de l'héritage traditionnel. Alors le dadaïsme, qu'est-ce que c'est ? Alors, ce mouvement de révolte nommé Dada, par pur hasard ludique, en 1915, va devenir le nom d'une revue fondée par Zara à Zurich en 1917. Alors, il faut vous dire que ce dadaïsme avait un chef de file, c'est Marcel Duchamp, qui était un peintre d'ailleurs plutôt d'une bonne formation traditionnelle, avec son ami Picabia d'ailleurs. Ils vont décider de partir à New York en juin 1915. Alors, je vais vous montrer d'ailleurs ce que faisait à l'époque Monsieur Duchamp. Vous voyez que c'est une toile d'ailleurs qui fait un peu penser à la peinture de son frère, parce que Monsieur Duchamp avait un frère qui s'appelait Jacques Villon et qui était un peintre divisionniste qui travaillait un petit peu dans cet esprit-là. Et vous voyez que pour l'époque, c'était quand même une peinture qui était assez avancée, mais enfin, vous allez voir qu'il va aller beaucoup plus loin que ça. Alors, ils sont avec Picabia, ils sont invités par les Arensberg, qui sont de grands collectionneurs américains, à partir pour New York. Alors, vous me direz, 1915, ça ne vous dit pas grand-chose, mais 14-18, ça vous dit peut-être beaucoup plus de choses. Il faut dire que M. Duchamp avait été réformé pour des petites raisons cardiaques, et la guerre sanglante qui déchire l'Europe ne les regarde absolument pas. Alors, comme je vous l'ai dit, il fut réformé. Et d'ailleurs, Marcel Duchamp n'était pas la première fois qu'il allait à New York, puisqu'il avait déjà exposé une toile à New York dans une très grande exposition qui s'appelait Armory Show en 1913, c'est-à-dire 2 ans auparavant. Et il... bon, là, je continue à vous montrer quelques peintures de Duchamp. Je crois qu'il y en a 2 autres qui vont suivre. À propos de Jeune Sœur Octobre de 1911, qui est au Guggenheim Museum. Alors ça, c'est... attends. Ah. Alors... Ouais. On a un petit problème de... Voilà, alors Yvonne et Magdeleine des Chiquetiers de 1911. Et ensuite, on va passer à la prochaine. C'est bon, le nu descendant l'escalier. Alors voilà. Alors la guerre, là, qu'est-ce que je voulais dire? Je suis un peu perdu là. Comme je vous l'ai dit, M. Duchamp n'en était pas à sa première sur New York, puisqu'en 1913, il avait exposé cette fameuse toile que vous voyez qui était plutôt. D'une origine cubiste. D'ailleurs, les Américains l'avaient appelée la femme aux tuiles. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que la couleur était un petit peu chaude comme ça. Et il faut dire que cette toile a fait scandale. Il faut vous dire que l'exposition a été organisée en hommage à Ingres. Alors évidemment, lorsque vous voyez ce que fait Ingres et tous les autres participants à cette exposition étaient plutôt dans la même mouvance, c'est-à-dire très très figurative, et évidemment, il n'était pas étonnant que les Américains soient un petit peu choqués par une telle toile qui faisait un peu tache d'huile. C'est vrai que Ingres, qui était mort en 1867, évidemment, ne correspond pas du tout à cette période-là. Bizarrement, avec ce premier scandale, il devient aux États-Unis l'étoile que se disputent de fastueux mécènes. Et c'est une véritable auréole qu'entoure Duchamp. Il fut ainsi célèbre dans toute l'Amérique, pour laquelle il incarna la modernité artistique. Et à New York, il va rencontrer un autre artiste, Man Ray, qui était photographe et qui est de Philadelphie d'ailleurs. Alors avec Picabia, il se retrouvait à trois, c'est-à-dire Man Ray, Duchamp et Picabia. Et Arensberg finalement, puisque ces Arensberg étaient très amoureux de la peinture d'avant-garde. Il faut vous dire que les Américains avaient raté le coche avec les impressionnistes, et tout ce qui venait d'Europe était vraiment considéré, surtout pour les artistes d'avant-garde, comme des œuvres qui allaient avoir une certaine valeur par la suite. Et M. Arensberg, bien sûr, faisait confiance à Duchamp sur ce plan-là. Et ils vont devenir des chefs de file de l'avant-gardisme radical à New York. Alors, une galerie au 291 de la 5e avenue va devenir leur lieu d'exposition et un peu le QG de l'avant-gardisme à New York. Alors, il faut vous dire que, comme le rapporte d'ailleurs Gabrielle Picabia, la femme du peintre, ce n'était dans ce lieu que sexe, alcool, jazz et jolies femmes du monde, ce qui ne devait pas être triste, et ces dadaïstes vont être au nombre de 21 par la suite dans cette galerie. Alors malgré ses qualités de peintre traditionnel, Duchamp ne peint plus depuis 1912. Il faut vous dire que cette toile a été peinte en 1912, et il faut reconnaître que ça devrait être à peu près la dernière toile qu'il ait peinte à ce moment-là. Et il faut vous dire qu'il pense qu'il ne ferait pas le poids auprès des cubistes tels que Braque, Picasso et les autres à Paris. Il faut vous dire que les Américains, à l'époque, ignoraient totalement ce qui se passait à Paris. Ils ne connaissaient pas tellement les avancées plastiques dans ce domaine. Et pour eux, Duchamp représentait évidemment l'exception, puisqu'il était un des premiers à leur présenter une toile cubiste. Ce qui explique, je crois, son changement radical d'orientation avec son ready-made. Alors, le ready-made, comme son nom l'indique en anglais, c'est évidemment l'objet tout fait. Alors, on lui demande, à cette époque-là, en 1917, de mettre une toile dans une grande exposition. Et comme il ne peint plus, comme je vous l'ai dit, depuis 1912, il avait fait l'acquisition, d'ailleurs, d'une cuvette d'urinoir en porcelaine, que voilà, d'ailleurs, vous voyez, et qu'il avait intitulé La Fontaine, d'ailleurs, et il décide purement et simplement de mettre cette œuvre, enfin ce qu'il considérait être comme une œuvre, au salon. Et bien sûr, ça a fait scandale. Et je ne trouvais pas ça très courageux, puisque au lieu de signer de son nom Marcel Duchamp, il a signé, comme vous le voyez, de Hermut 1917. Évidemment, peut-être parce qu'il ne savait pas trop ce que ça allait donner. Et ce Redimed, évidemment, venait de naître. Et il n'a pu évidemment être accepté au salon parce qu'on lui a dit ça n'est, d'abord, ce n'est pas une toile, ça n'est pas de l'art, et là il se trompait guère. Mais la critique évidemment s'est emparée de la chose. Cette photo a été reproduite un peu partout dans les magazines et les critiques d'art ont posé à Duchamp la question qui tue un petit peu, c'est: mais pour vous, si vous mettez ça, qu'est-ce que l'art, monsieur Duchamp? Alors, Marcel Duchamp avait réponse à tout, et il leur répond que le mot art viendrait du sanskrit, qui est une langue littéraire ancienne de l'Inde, et qui voudrait dire faire, F-A-I-R-E. Alors, bien sûr, cette trouvaille va en réjouir quelques-uns. Or, tout homme fait, donc, par définition, tout homme est un artiste. Mais faire n'est pas savoir-faire, c'est ce que je dis. Autrement dit, le ready-made ou l'art conceptuel tel qu'on l'appelle aujourd'hui, avec son refus de l'héritage, s'il correspond au mot faire, l'art traditionnel, l'artisanat, peut être le savoir-faire, bien sûr. Et d'ailleurs, tous ces gens qui ont cru dans ce ready-made veulent tout ce qu'on les appelle artistes. Bien sûr, c'était trop beau, puisque tout homme est un artiste, tout homme peut se dire artiste, c'est sûr. D'ailleurs, ce mot artiste n'existait pas au XVIIe siècle. Vous savez qu'au XVIIe siècle, il n'y avait que des artisans. Et même des peintres comme Courbet, pour lui, c'était l'injure suprême, artiste, et pour Henri Matisse, qui détestait ce mot, pour lui, la peinture, c'était, lui, se considérait comme un ouvrier qui avait bien appris son métier, ni plus ni moins. D'ailleurs, ce demi-siècle de création comporte des œuvres qui se rapportent plus, d'ailleurs, en général, au ready-made, c'est-à-dire à l'objet tout fait, qu'à l'art contemporain traditionnel. C'est-à-dire, lorsque vous allez dans les musées d'art contemporain, il est fréquent de trouver des poubelles renversées, des trous creusés à même le sol, des barres de métal jetées à terre, des frigidaires, des ampoules de 60 watts, des chaînes recouvertes de graisse, et il y en a même qui s'humilient en public en plongeant leur tête dans du ketchup. Alors chacun y va de sa petite trouvaille afin de marquer son petit territoire. Alors il faut dire que Duchamp a su occuper le terrain des médias avec cette histoire-là. Mais que se passe-t-il après 1917. Alors nous allons maintenant regarder quelques diapositives sur voilà, ce qu'a fait Duchamp. Alors Duchamp n'en est pas resté, évidemment, comme il a vu que son travail occupait bien le terrain des médias, il est allé assez fort dans ce domaine. Et après La Fontaine, il a fait ce porte-bouteille en 1914. D'ailleurs, ce porte-bouteille, nous allons voir, il a été perdu et il a été refait en 1936, un peu plus tard. Ensuite, vous allez voir qu'il n'a pas fait que du ready-made, puisqu'il s'est fait faire une tonsure sur la tête en 1921. Alors, la photo est de Man Ray, bien sûr, puisque Man Ray était photographe. Ensuite, vous allez avoir la cage à oiseaux, cube de marbre, os de sèche et thermomètre. Ça, cette œuvre est au musée de Philadelphie. D'ailleurs, il faut vous dire que les Arensberg ont acheté, à part les musées qui l'ont acheté là-bas, ont acheté pratiquement toute la production de Marcel Duchamp. Ensuite, vous avez Objet d'art de 1951, alors ça c'est beaucoup plus tard. Et ensuite, vous avez cette fameuse toile, reproduction de la Joconde. D'ailleurs, vous voyez avec quel mépris il considérait l'œuvre de Léonard de Vinci, puisqu'il avait reproduit la Joconde en lui mettant une paire de moustaches et une barbe. Et d'ailleurs, là, on le voit mal, mais dessous, vous avez un titre qu'il avait. Il avait intitulé cette œuvre de 5 lettres, un L, un H, un O et un Q, ce qui veut dire LHOQ, passé, passé à la prochaine, la future. La prochaine. Oui, alors là, il y en a un peu plus près. Encore une autre. Vous avez le dadaïsme, bon, voilà, un peu plus près, vous voyez. Alors, LHOQ, ce qui faisait dire à Pierre Échinard que ça devait être le premier texto que les artistes ont trouvé pour appeler la Joconde. Alors, Marcel Duchamp a ensuite montrant sa fameuse boîte mécanisme, boîte à valise de 1941, qui était en peau de chamois de chez Vuitton. Ensuite, vous avez le gaz d'éclairage, qui, à mon avis, est une œuvre qui est assez malsaine, mais enfin, ça fait partie. Il appelait ça le gaz d'éclairage et la chute d'eau. C'est là, il ne faut pas trop trouver de rapport avec le sujet, comme beaucoup d'œuvres, d'ailleurs, dadaïstes. Et ensuite, vous avez, alors là, c'est la seule œuvre de Man Ray, qui était photographe, et comme il savait que tout homme était un artiste, lui aussi s'est mis à œuvrer dans ce sens. Alors, nous allons, pour ne pas vous laisser l'écran sur cette image-là, je vais continuer ma conférence après 1917, c'est-à-dire, mais pendant ce temps-là, toutes les minutes, je vais vous projeter une série d'œuvres contemporaines, et toutes les minutes, comme ça, puis après on reviendra rapidement sur ces œuvres où je vous donnerai l'auteur, l'année de création et le titre. Mais comme ça, vous allez voir que pendant que je parle, vous aurez de quoi vous occuper les yeux. Alors en 1920, il faut vous dire qu'à Berlin a été la première foire internationale Dada. Et paradoxalement, ce fut un échec. Ce fut un échec. Sans trop savoir pourquoi, d'ailleurs, Dada avortera et restera sans suite. Pourtant, il faut reconnaître que la philosophie allemande devrait se porter assez bien par rapport à ce mouvement, mais pas du tout. Par contre, toujours en 1920, à Paris, contrairement à Zurich, parce qu'il faut vous dire que Zurich, par contre, a été une ville très propice à Dada et a été la ville qui a le plus soutenu ce mouvement. Alors, comme je le disais, en 1920, contrairement à Zurich, l'année marquée par ce mouvement a été marqué sous le signe de la provocation et du grotesque. Duchamp sait très bien que Dada touche plus à la psychanalyse littéraire qu'à la peinture. Et pour cela, il voulait venir à Paris. Il voulait venir à Paris. Pourquoi ? Bien parce qu'il voulait exporter ce qu'il avait créé là-bas à New York. Il voudrait que ça vienne à Paris parce que, comme je vous l'ai dit, il savait qu'à Paris, il y avait le cubisme, il y avait Picasso, il y avait Braque, il y avait Matisse. Et c'est un peu la raison pour laquelle, d'ailleurs, le groupe compte bien sur les littéraires surréalistes, tels que André Breton, que Tsara, que Philippe Soupeau, que Aragon, que Benjamin Perret, ou Paul Éluard d'ailleurs, qui compte bien d'ailleurs les rejoindre, souhaitant quand même porter le débat à un niveau plus élevé que celui des pitreries superficielles des soirées Dada. C'est ce qu'a dit M. Paul Éluard d'ailleurs. Alors Duchamp sait qu'il ne peut pas compter, comme je vous l'ai dit, sur les ténors, tels que Picasso, Matisse, Braque, Léger et tous les cubistes historiques. Et à Paris, il veut quand même s'entourer de peintres sérieux, mais il faut dire que tous ces monstres sacrés ne comptent pas être manipulés par tous ces psychanalystes. Et finalement, il se retrouve à 5 à Paris pour pouvoir exposer. Alors à 5, évidemment, il y avait déjà Duchamp, Manré et Picabia, ils étaient trois, ils ont trouvé quand même Harp et Max Ernst qui ont accepté de rejoindre leur groupe. Alors, bon, en 1921, alors maintenant, à Zurich, les Dada se portent toujours bien. Alors, les artistes Krotz et Hartfield, au salon de Zurich, brandissent un panneau où est écrit « L'art est mort, vive le nouvel art des machines de Tatlin ». Alors, Vladimir Tatlin est un artiste russe, et qui était sûrement révolutionnaire, mais cet art de propagande est loin de plaire à Duchamp. Il faut dire que ce mouvement est loin d'une orientation de cette ironie que Duchamp et Picabia voulaient provoquer avec ce dadaïsme. Et jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, d'ailleurs, Paris, et heureusement pour nous, restera tout de même la capitale de l'art dans le monde. Mais Duchamp comptait bien détrôner cette ville, et il pensait bien qu'à New York, un jour ou l'autre, on finirait bien par accepter tout ça. D'où l'importance de Duchamp, comme je l'ai dit, de conquérir la capitale, mais en vain, il n'y arrive pas. Et pourtant, il avait quand même fait une grande exposition, en 1922, à la Galerie Montaigne, mais cette exposition a été un véritable bide, comme on dit, et évidemment, dès 1923, il faut dire que c'est en 1923 qu'il faut dater le dernier soupir de Dada. En effet, à Paris, rien ne va plus, les littéraires ne s'entendent plus, il y a brouille entre Tsara et Breton, tout est fini. Il faut dire que ces gens-là, ces littéraires, se sont rendus compte très vite que Duchamp les avait un peu pris pour conforter son image plastique, alors qu'ils se sont rendus compte que cet art n'avait rien de plastique et, comme je l'ai dit, avait beaucoup plus de rapport avec la psychanalyse qu'avec les arts plastiques. D'ailleurs, si on lit le manifeste Dada de Berlin et de Zurich, en 1914, il y a de quoi se poser des questions. Alors, je cite une seule phrase, parce que je ne vais pas vous lire tout le manifeste Dada de l'époque. Il faut dire que toute œuvre picturale est, ou plastique est inutile. Alors, vous voyez que on était bien servi sur ce plan-là, on savait à quoi s'en tenir déjà à l'époque. Alors, par contre, j'ai retrouvé dans mon atelier un bouquin que j'avais acheté en 1960, sur le futurisme et le dadaïsme qui avait été préfacé par Philippe Soupeau, qui lui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, faisait partie avec André Breton et les autres, avait soutenu Duchamp dans ses mouvements. Alors Philippe Soupeau est mort assez vieux puisqu'il est né en 1897 et mort en 1990. Et lorsqu'il a écrit cet extrait d'introduction, Monsieur Soupeau avait, j'allais dire, toute sa tête. Alors je cite, les futuristes, comme il l'écrit lui-même, furent les premiers incendiaires. Et Guillaume Apollinaire les appelait les pyromanes. Apollinaire, bien sûr, qui était aussi, lui, précurseur des Dada. Duchamp s'est amusé à provoquer ses admirateurs. Il était cynique, astucieux et rancunier. Et il comptait beaucoup sur Tsara avec Picabia. Tsara était rusée. Comment pouvait-il accepter la collaboration des peintres et sculpteurs à l'œuvre de destruction de l'État, de l'art qu'il avait décidé d'entreprendre? Dada réclamait l'assassinat des beaux-arts. Alors vous voyez que on se demande comment, d'ailleurs, à Paris, un peu plus tard d'ailleurs, après les années 50, on va se rendre compte que Duchamp, là, a baissé les bras et reparti aux États-Unis. Mais je suis persuadé, d'ailleurs, que s'il n'y avait pas eu la Deuxième Guerre mondiale, cet art qui n'en est pas un, d'ailleurs, n'existerait pas en Europe. Puisque en 1922, comme je vous l'ai dit, à la Galerie Montaigne, il y a eu une exposition Dada. Par contre, en Europe, l'expo que Duchamp a organisée est arrivé en 1957, c'est-à-dire 14 ans après, ce qui n'est pas rien. C'est-à-dire qu'il a bien exposé à New York au Musée d'Art Moderne, il a bien exposé à Sydney, à Sydney Gallery, toujours à New York, en 1953, mais après la guerre, évidemment, Nous allons voir pourquoi cet art a repris le dessus en 1950. Alors ce ne sera, comme je l'ai dit, qu'en 1950 qu'un néo-dadaïsme renaîtra de ses cendres, parce que jusqu'en 1923, comme je vous l'ai dit, à Paris, pas question de mettre en évidence cet art. Alors pourquoi ? Bien, il faut dire que le coup de maître qu'a réussi Duchamp à New York n'aurait pu être possible en France, à Paris, au début du siècle. Eh bien, parce qu'un refus de l'héritage culturel aurait été impossible dans un pays où, depuis l'homme des cavernes d'ailleurs, l'art n'a cessé d'évoluer dans une grande diversité de langages. Par contre, il était beaucoup plus facile pour Duchamp de faire accepter son ready-made aux États-Unis, où le passé culturel est pratiquement inexistant. Alors comment faire table rase en France ou à Paris, où depuis Paul Cézanne, l'art progresse dans la tradition, passant de l'expressionnisme au dadaïsme, du symbolisme au divisionnisme, du cubisme au surréalisme, ou à l'art abstrait d'ailleurs, qui reste pour moi d'ailleurs la suite logique de la figuration. Comme je dis toujours, l'art abstrait ne peut être que valable dans la mesure où on ne devient pas abstrait, on n'est pas abstrait comme ça, un de ces jours on ne se réveille pas en disant « tiens, je suis abstrait ». Non, on le devient, c'est-à-dire que quand on voit tous les peintres sérieux abstraits, ils ont tous commencé avec un travail très traditionnel, mais un jour ou l'autre, l'évolution de leur art a fait qu'ils ont voulu sortir du carcan représentatif pour arriver à l'informel. Pourquoi ? Bien parce que même si on sait bien dessiner, lorsqu'on peint une toile figurative, on a toujours ce problème de s'arrêter aux lignes du dessin, c'est-à-dire si vous peignez un nu, et si vous mettez un nu jaune, rouge, vert ou bleu, eh bien ce bleu va s'arrêter aux limites du volume de ce nu. Par contre, si vous voulez que le bleu soit beaucoup plus important, eh bien, il va falloir sortir de cette forme pour tomber dans l'informel. D'ailleurs, en ce qui me concerne, moi, je me considère comme un abstrait figuratif parce que, justement, je commence toutes mes toiles avec un travail informel et j'arrive par la suite à le rendre représentatif, ce qui, nous allons voir, ce qui existe d'ailleurs chez un artiste comme, comment s'appelle-t-il, pas Kandinsky, Nicolas de Staël d'ailleurs, qui a commencé avec une peinture abstraite très analytique et qui est arrivé, peut-être au contact de Matisse, est arrivé à un excès de couleurs et est revenu en fin de carrière, courte carrière puisqu'il est mort en 1941 et tout le monde le sait, il s'est suicidé, il est revenu à cette... disons, à cette expression représentative. Alors, en ce qui me concerne, déjà dans les années 50, j'adorais Manessier, j'adorais Soulage, quoique Soulage, nous allons voir, a eu, avec son noir, évidemment, il a été assez critiquable, parce que c'est vrai que Nicolas de Staël, d'ailleurs, lui, par contre, vous savez que ça a été un des artistes qui n'a jamais fait partie des peintres officiels de son vivant. C'est-à-dire que Bernard Dorival, qui était directeur du musée d'art moderne à Paris, a voulu acheter une toile de Staël, mais manque de chance pour le musée d'art moderne. Nicolas de Staël avait exposé à New York, les prix de ses toiles avaient littéralement explosé et il dit à de Staël, je ne peux pas t'acheter de toile parce que jamais ça passera. Mais de Staël, lui, très, très généreux, lui a dit, écoute, la toile, je te l'offre, tu choisis celle que tu veux, à une seule condition, c'est que tu ne me mélanges pas avec le gang des abstractions avant. Alors évidemment, c'est un jeu de mots cruel que de Staël avait trouvé pour écarter de son accrochage Pierre Soulage, Hartung et Georges Mathieu, qui pour lui faisaient partie des peintres qu'il n'aimait pas. C'est bizarre parce que Soulages, quand même, a été un peintre. Bon, c'est pas que j'adorais Soulages, c'est vrai qu'on peut reprocher à Soulages d'avoir à peu près peint la même toile, c'est-à-dire qu'il ne sortait pas du noir, du brun, des couleurs chaudes, c'est vrai. Alors, il y avait évidemment Manessier, Bazaine et Estève que j'aimais beaucoup. Alors, d'ailleurs, je dois reconnaître que l'art abstrait ne date pas d'hier, puisqu'en 1888, Maurice Denis a écrit à propos de cette fameuse toile de Sérusier, Le Talisman, qui a d'ailleurs, c'est une toile qui avait été peinte sur le dos d'une boîte de cigares, c'est-à-dire c'était pas gros, hein. Il avait appelé ça Le Talisman, et il a dit se rappeler qu'un tableau, avant d'être un cheval de bataille, une femme nue ou une quelconque anecdote, est essentiellement une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblé. Alors évidemment, en 1888, vous voyez que déjà à l'époque, les impressionnistes pensaient déjà à l'informel. Et quand on voit cette fameuse toile, d'ailleurs je ne vous l'ai pas mise parce qu'elle ne fait pas partie du lot, mais c'est vrai que c'est une toile qui est vraiment remarquable. Et finalement, elle a été inspirée par le travail de Gauguin. Alors, comme je vous l'ai dit, depuis les années 20, on croyait ce dadaïsme enterré, et ce dadaïsme ne l'était pas. Alors, il y a eu, à mon avis, trois facteurs qui ont joué dans les années 50 pour favoriser ce retour. Alors, le premier, ça a été l'Amérique. Le deuxième, ça a été un snobisme évident des années 50. Et je peux en parler savamment, puisque je suis arrivé à Paris en 1950, et j'y suis resté 10 ans. Donc, toutes les années 50, j'ai un peu vu ce qui s'y passait. Et j'habitais d'ailleurs en plein Montparnasse. Et troisièmement, l'argent, qui encore aujourd'hui fait partie un petit peu de cette gangrène de l'art contemporain conceptuel. Je rajoute bien conceptuel parce que ne pas confondre avec l'art moderne. Alors après la guerre en 1945, je suis obligé de parler de moi parce que j'avais 12 ans en 1945, l'Amérique, c'est vrai, était sous les projecteurs. Il faut vous dire qu'après la guerre, là, il y a eu la libération, il y a eu le débarquement en Normandie, l'Amérique était au zénith, c'est vrai. Et à 15 ans, j'entrais en 1947 à l'école des beaux-arts de Marseille, et j'avais beaucoup de facilité en dessin, paraît-il, à l'époque. Déjà, à l'époque, l'Amérique fascinait tous les jeunes, c'est vrai. D'ailleurs, ne serait-ce qu'à travers les films en technicolore que nous regardions, nous, le soir, lorsque nous sortions de l'école des beaux-arts, on descendait la Canebière et on allait voir les films en couleur. D'ailleurs, il y a un film que j'avais vu à l'époque qui s'appelait La vie secrète de Walter Mitty et qui avait été. L'acteur principal était Danny Kaye, qui était un comique de l'époque. Enfin, le film n'était peut-être pas un film extraordinaire, mais il montrait un peu la vie à New York. Et ça, on avait évidemment vu les buildings, Broadway, Times Square, et la publicité aussi, parce que c'est un film qui se passait dans le milieu publicitaire. Et c'était pour nous, on voulait tous aller à New York, quoi, c'est sûr. Alors, comme je vous l'ai dit, j'étais assez doué en dessin, mais sur le conseil de professeurs, ils m'ont dit de partir à Paris, parce que à l'époque, l'école des beaux-arts, c'était pas tout à fait ce qu'il fallait en attendre, c'est-à-dire que moi on m'avait dit que le dessin c'était un peu comme la photographie, il fallait copier ce qu'on voyait, alors que lorsque je suis arrivé à Paris, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça. Alors me voilà parti monter à Paris en 1950, et on m'avait conseillé de présenter le concours d'entrée de l'ANSAD. Alors l'ANSAD, c'est l'École nationale supérieure des arts déco, qui est la plus grande école à Paris, où non seulement on apprend à dessiner et à peindre, mais on apprend tous les métiers d'art, c'est-à-dire depuis j'allais dire le vitrail, non, le tissu, le décor théâtre, le bijou, la ferronnerie d'art, ben tout y passait. Et moi, ce que j'attendais, c'était la perspective, la descriptive, tout ça, ça faisait partie de ce qu'un artiste devait savoir. Alors j'avais tout prévu, mais je me suis dit, j'avais 17 ans, j'étais assez jeune, c'est-à-dire j'étais à l'âge limite, et je pensais qu'avec tous ces premiers prix de dessin que j'avais, ça allait suffire pour être reçu. J'avais tout prévu, sauf qu'il y avait 2000 candidats qui se présentaient, et il n'y avait que 100 reçus. Alors inutile de vous dire que ça a été la débâcle complète, et évidemment, j'étais pas sur les listes. Et j'ai dû me... On m'avait dit, mais tu sais, si tu retournes à Marseille, il faut pas compter repasser ton concours, parce que si tu prépares pas à Paris, tu n'as aucune chance d'entrer aux Arts Déco. Alors, chose que j'ai faite, on m'avait recommandé l'atelier Corlin, je suis rentré à l'atelier Corlin, j'ai appris vraiment ce que c'était que le dessin. C'était autre chose, on m'avait dit que le dessin c'était la forme, mais c'était pas la forme, c'était l'explication de la forme, ce qui est beaucoup plus intelligent pour un dessinateur. Alors, dans les années 50, alors j'en reviens un petit peu aux années 50, j'habitais au 14 de la rue de l'Ambre à Montparnasse, et dans ce quartier mythique d'ailleurs, où qui avait vu travailler des gens comme Modigliani, comme beaucoup d'artistes, et nous regardions d'ailleurs à cette époque-là, tous ces furieux néo-dadaïstes qui se prenaient très au sérieux, mais que jamais j'aurais pensé qu'un jour, cet art deviendrait l'art officiel en France, tout au moins à Paris, et en Europe et dans le monde d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, il faut dire que dès que Paris a donné son feu vert, tout va suivre. Et nous pouvions d'ailleurs à l'époque côtoyer des artistes comme Fujita, avec sa frange sur le front, là, Brassens, Nicolas de Sal, des artistes comme Giacometti, ou même Boris Vian d'ailleurs, qui à l'époque avait créé une chanson qui s'appelait « Je suis snob », ce qui prouve bien d'ailleurs que ce snobisme des années 50 était tout à fait réel. Et quand on regarde évidemment même des films comme Jacques Tati dans « Mon oncle » d'ailleurs, vous pouvez voir que le snobisme des cuisines hyper modernes et assez évoluées faisait partie de ce snobisme. Et il y avait également les Azous à l'époque. Alors les Azous, pour ceux qui ont à peu près mon âge, ils savent à peu près ce que c'est. Ce sont des rigolos un peu décalés qui portaient des habits triple semelle et un chapeau sur l'arrière du crâne. D'ailleurs, un artiste comme Charles Trenet, on peut dire qu'il s'en est un petit peu servi comme, disons, tenue pour sa tenue musicale à l'époque. Alors il fallait absolument étonner, et les dadas, évidemment, étaient assez des bienvenus dans ce domaine. Man Ray, d'ailleurs, que j'ai bien connu à Montparnasse, mais jamais j'aurais pensé qu'il faisait partie du groupe, puisque pour les gens de Montparnasse, Man Ray était qu'un simple photographe qui photographiait d'ailleurs les modèles que nous prenions, nous, aux Arts Déco et à la Grande Chaumière. Et évidemment, j'ai appris par la suite que M. Man Ray était aussi un artiste plasticien. D'ailleurs, M. Man Ray étant américain, lui ne fréquentait pas tous les bars comme le Dôme, la Coupole, il y avait la Coupole bien sûr, mais il y avait aussi la Rotonde qui faisait partie hein, de tous ces cafés. Mais eux allaient, comme beaucoup d'Américains d'ailleurs, comme Eddie Constantine d'ailleurs, qui faisait partie de ces artistes américains du showbiz, ils allaient au Select, qui était situé d'ailleurs, je crois qu'il existe toujours d'ailleurs, en face de la Coupole, boulevard Montparnasse. Alors, on a vu les deux premiers, l'Amérique, on a vu le sobisme évident, et maintenant l'argent. Alors l'argent, avec lui, tout devient possible, comme vous le savez. Un art qui n'en est pas un, comme je dis, convient parfaitement à des élites incultes. Et cet argent est merveilleusement adapté à des milliardaires, trop ignorants d'ailleurs, pour apprécier les vraies valeurs artistiques. Est-ce qu'un milliardaire achète 1 million d'euros d'ailleurs ? Paraît forcément bon pour monsieur tout le monde. Et évidemment, du moment que ça vaut 1 million d'euros, c'est forcément bon. Et le public va emboîter le pas. Il faut dire que les investisseurs n'ont pas voulu commettre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'erreur de leurs prédécesseurs face aux impressionnistes. Et aux États-Unis surtout, tout ce qui était considéré comme d'avant-garde était du pain béni pour eux. L'art d'avant-garde aux États-Unis est devenu une valeur refuge. et la crise du 24 octobre 1929 se répercute en France en 1931, et la cote est souvent maintenue artificiellement, comme je dis, à la hausse. Il faut dire qu'il est très facile, vous savez, de faire monter les enchères pour en faire monter la cote. Dans les salles des ventes, c'est très 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 facile. Et c'est le service que savent se rendre d'ailleurs les spéculateurs de bonne compagnie. Aux États-Unis, et plus particulièrement à New York d'ailleurs, depuis longtemps, les collections sont de véritables paradis fiscaux légaux grâce aux avantages dans ce domaine. Il faut dire que ceux qui achètent des œuvres d'art se voient leurs impôts terriblement diminués, et c'est à coups de millions de dollars que les milliardaires se disputent la dernière star à la mode d'ailleurs. Vous savez qu'aujourd'hui, si on ne peut pas se payer des Léonard de Vinci, des Michel-Ange ou des Raphaël, parce qu'il n'en existe plus sur le marché, on va fabriquer des stars. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et en 2009, d'ailleurs, avec la crise récente, le marché de l'art a littéralement explosé à New York. Et j'ai vu dans ce domaine, d'ailleurs, un reportage sur Arte qui explique tout à fait ce que je suis en train de vous dire. Cet art contemporain-là résistera tant que ces paradis fiscaux, d'ailleurs, existeront. Alors, ces avant-gardistes-là et la tradition de la nouveauté, mais comme l'imagination humaine a ses limites, il faudra bien un jour revenir aux idées de ses prédécesseurs. Alors, pour en revenir à Duchamp, comme je l'ai dit, on va un petit peu en parler, parce que Duchamp, c'est quand même le grand responsable. Et on se rend compte qu'il n'aime pas la peinture. Pourtant, comme je l'ai dit, il a une bonne formation professionnelle. Et c'est un cérébral, grand joueur d'échecs. Il invente le dogme de l'artiste Dieu, qui décide de ce qui est art par une décision arbitraire et sans appel. Alors, pour la petite histoire, l'urinoir et le porte-bouteille que vous avez vu tout à l'heure, Et bien d'autres ready-made d'ailleurs, parce qu'il n'a pas fait que ça, ont été perdus ou jetés depuis belle lurette. Il n'en reste plus que quelques images photographiques, probablement réalisées par Man Ray. Et ils font l'objet d'ailleurs d'une nouvelle fabrication. En effet, le marchand de tableaux milanais Arturo Schwartz les fait confectionner à l'identique en 14 exemplaires chacun. Alors Duchamp est ravi, bien sûr, d'une telle opération lucrative, et Georges Dickey vante les qualités visuelles de la pissotière. Forme agréable, dit-il, à l'œil, etc., etc. Mais Duchamp n'est pas du tout content de cette flatterie. On sait bien que Duchamp, d'abord, il ne l'a pas fait pour ça. Il s'est indigné du culte esthétisant dont on a voulu entourer ses ready-made. D'ailleurs, il ne semble pas que cette position de vierge outragée soit bien sincère de sa part. Et même en 1917, d'ailleurs, le comité indépendant, son complice Arensberg lui-même avait également vanté les courbes splendides de cet urinoir, ce qui, évidemment, ne le satisfaisait absolument pas. Alors maintenant, nous allons passer aux années 60. Alors, si les années 50 ont préparé le terrain, si j'ose dire, c'est pas dans les années 50 tout a basculé, non. Mais il faut dire qu'il y a eu ce retour, puisque, comme je l'ai dit, en 57, Duchamp a remis une couche et a exposé, d'ailleurs, ses toiles à la galerie d'Institut en 57. Et c'est dans les années 60, finalement, que le néo-dadaïsme va peu à peu devenir l'art officiel que nous connaissons aujourd'hui, avec ses installations et tout ce qu'on connaît dans ses musées. Alors, le pop art, évidemment, qui a été créé en 1961 à New York, le pop art est né aux États-Unis, bien sûr, et son représentant officiel, si j'ose dire, a été dans l'esthétique publicitaire Andy Warhol. Et cet art était représenté par des objets manufacturés pour la plupart, Et moi, j'ai connu, puisque je suis parti à New York dans les années 60, j'ai connu à Greenwich Village, qui est le quartier latin de New York, je voyais tous ces, comment on appelle ça, ces hippies qui étaient sur les trottoirs et qui vendaient des plaques de contreplaqué où étaient collées des boîtes de coca, enfin tout ce qu'ils trouvaient dans les poubelles, et ils vendaient ça $10. Alors je trouvais ça évidemment très amusant, mais où j'ai moins rigolé, d'ailleurs, ben, les touristes qui arrivaient là-bas achetaient ça, alors ce qui était pratique, parce que $10 c'est pas cher, ils mettaient ça à leur mur, puis le jour où ils en avaient marre, eh bien ils remettaient ça à la poubelle, ce qui n'était pas négligeable. Par contre, où j'ai moins rigolé, c'est lorsque je suis arrivé à Paris, que j'ai vu ça dans les musées, et j'ai vu ça rue de Seine, à des prix délirants. Ça, évidemment, ça a été la chose que j'attendais le moins. Alors il y a eu mai 68, vous savez, avec cette fameuse phrase qui a évidemment officialisé un petit peu cet art, il est interdit d'interdire. Alors évidemment, figurez-vous que j'étais professeur aux Beaux-Arts en 1960 et que j'ai vécu quand même ces bons et mauvais moments de cette révolution dite culturelle. Alors, il y a eu l'abolition de tout ce qui représentait la tradition, bien sûr, et il fallait absolument que tout change. Alors tout change, il faut dire que l'école des Beaux-Arts, ils s'imaginaient tous qu'en changeant les appellations, ils allaient changer le problème plastique. Alors l'école des Beaux-Arts, c'est devenu l'école d'art, la peinture, c'est devenu le cours de couleur, la sculpture est devenue le cours de volume, la publicité, c'est devenu le cours de communication, le cours de dessin, le cours de graphisme. Bon, ça me faisait marrer, mais enfin, ça ne changeait pas le problème. Et il faut dire que le ministère de la Culture a cru bon de supprimer le CAFAS. Alors le CAFAS, pour ceux qui ne savent pas, c'était le certificat d'aptitude à une formation artistique supérieure. Alors je dis que pourtant, c'était quand même un examen qui était le seul à apporter vraiment une réelle connaissance aux étudiants des écoles d'art. Évidemment, avec sa formule de Duchamp, tout homme est un artiste, cette formule avait fait son travail. Et même dans le milieu officiel, il faut vous dire que même au ministère de la Culture, on n'avait Dieu que pour ce nouvel art qui était l'art conceptuel, si bien que dès les années 69, 70, 71, on a eu évidemment tout à basculer. C'est-à-dire qu'on est passé de... Les cours de dessin sont devenus progressivement inexistants. Et moi, j'avais connu les cours de dessin en 1960 où on avait 15 heures par semaine de dessin. Et en 1980, on est passé à 3 heures, ce qui n'est pas beaucoup. Et aujourd'hui, je ne sais pas où ça en est, mais enfin, ça doit guère être mieux pour autant. Il faut dire que 3 heures, c'était encore pour se donner une bonne conscience. Alors, ce qui me faisait rigoler, c'est qu'on n'arrêtait pas de faire des colloques sur Rembrandt, sur le dessin. Et comme je disais, vous feriez mieux de faire du dessin, peut-être, avant d'expliquer ce que pouvait être le dessin de Rembrandt ou de Dürer ou des autres. Alors, dans les années 70, bien sûr, les enseignants issus d'une formation récente n'ont pu qu'encourager cette idéologie artistique, et de dépassement en dépassement, de rupture en rupture, on a de plus en plus restreint le propos artistique. Alors, pour mieux enfoncer le clou, certains même ont parlé d'esprit poujadiste, vichiste, réac, pourquoi pas. Il est vrai que pendant la guerre, Hitler parlait déjà d'art dégénéré, pour l'art expressionniste allemand, vous voyez qu'il frappait assez fort. Pourtant, l'art effrayant du Troisième Reich à l'époque n'avait rien à envier à celui du réalisme socialiste soviétique, comme quoi, en matière d'art, la dictature n'a jamais donné rien de bon. Alors pourquoi n'a-t-on jamais demandé aux plasticiens à l'époque ce qu'ils pensaient? Ça aurait été une bonne chose, parce qu'il y avait quand même beaucoup de peintres à l'époque, on n'a jamais demandé ce qu'ils en pensaient. Alors pourquoi le débat sur l'art contemporain fut interdit? D'ailleurs, une conférence comme je fais aujourd'hui, si je l'avais fait à l'époque, j'aurais été probablement brûlé aux orties, parce que dans les années 70, beaucoup de profs ont retourné leur veste, comme je dis. Et pourquoi le débat sur l'art contemporain a été interdit à cette époque-là? Et pourquoi personne n'a-t-il rien répondu aux critiques d'art, même qui ont répété ne pas trouver grand intérêt aux rayures ou à des rayures ou des graffitis? Est-ce que c'était être contre l'art contemporain? Alors, je ne crois pas du tout, parce que durant cette période de l'art contemporain conceptuel, la culture n'aura eu son salut créatif que dans la lapidation méthodique de tout le legs culturel. Alors, malheureusement, ces artistes réalisent des œuvres qui ne sont rien sans les mots qui les accompagnent, et couper un peuple de ses racines est un moyen de le priver de sa capacité de recul, donc de réaction à l'égard de ce qu'on lui impose. En méprisant la peinture, ce n'est pas seulement contre un support ancien qu'on a lutté, c'est qu'en voulant rompre avec les acquis de la peinture, on a jeté le bébé tout simplement avec l'eau du bain. Alors, il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Alors, moi, j'avais 35 ans en 68 et faisais partie des grands désobéissants qui ne savaient pas. Parce qu'il faut vous dire que tous les profs là-bas avaient déjà passé le cap et on se marrait en disant « il faut apprendre à dessiner ». Et moi, je faisais partie de ceux, bien sûr, qui croyaient au dessin. Et je crois toujours, d'ailleurs. Pourtant, je pense être très tolérant dans le domaine de l'art contemporain, puisque, je vous dis, l'art abstrait, pour moi, reste quand même un art qui est issu de l'héritage culturel. Alors, à l'âge démocratique, sera-t-il longtemps tenable de continuer à croire et faire croire que sont ignorants ceux qui pensent autrement? Et là, j'en reviens un petit peu à la pensée unique. C'est vrai qu'on a l'impression aujourd'hui que les officiels ont la science infuse devant l'art. Et il y a dans l'histoire de l'art, d'ailleurs, des périodes creuses. Et il est certain que notre période actuelle nous paraîtra plus aberrante que creuse un jour. Et pendant un demi-siècle, ces créateurs ont défendu ce qu'ils pensaient devoir survivre à leur temps. Ce tri, d'ailleurs, s'étant toujours fait avec le temps, ils n'y échapperont pourtant pas. Il y a eu, je crois, une méconnaissance de l'évolution sociologique du public, ça je le crois. Enfin, pensez-vous que, depuis le rire du bon bourgeois devant le déjeuner sur l'herbe, le public n'a pas changé? Bien sûr que si. L'éducation artistique s'est multipliée à l'échelle planétaire, et qu'ensuite, parce que le public a intériorisé le fait qu'il était passé à côté de Manet et Van Gogh, et que cette fois-ci, il commettrait plus la même faute. Alors, depuis le temps, les amateurs mieux informés commencent à réagir à cette culpabilisation qui revient à vous demander d'accepter a priori n'importe quoi. Alors, et puis les défenseurs du tout contemporain font semblant d'ignorer que le seul public qui compte, c'est, et qui a toujours compté, c'est celui des connaisseurs. Et il s'agit d'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un rejet de l'art contemporain dans son ensemble que du rejet d'un art qui propose tant d'œuvres pauvres. C'est ça qui est important. La démocratie culturelle a fait son travail et il y a au sein du public une proportion de connaisseurs qui se trouvent vexés, frustrés par tant d'œuvres aliénantes pour l'intelligence. Alors nous allons maintenant reprendre un petit peu... Non, il faut revenir en arrière peut-être.
Reviens...
Oui, voilà, encore jusqu'à Buren. Voilà, Buren. Alors, Buren, je prends Buren. Alors, Daniel Buren, manifestation numéro 3. Alors, je vais vous maintenant repasser à peu près ce que vous avez vu tout à l'heure. Avec cette manifestation 3 de 1967 de Buren. Alors vous voyez que M. Buren, ça fait 40 ans qu'il fait des rayures, et on devrait quand même, il devrait savoir que la rayure, c'est quand même pas... D'ailleurs, il dit lui-même que les rayures, ça a été un accident. Il le dit lui-même, d'ailleurs j'ai entendu dire ça, c'est parce qu'il travaillait avant sur de la toile à matelas, et un jour, cette toile à matelas a plu à un collectionneur, et depuis, il a mesuré les rayures de sa toile à matelas, il a décidé de peindre des rayures toute sa vie. Évidemment, ça le regarde. D'ailleurs, la prochaine œuvre, c'est à peu près des rayures, mais là, il est allé, comme ça date de 85, il appelle ça les damiers, il a mis ses rayures en 3D, c'est-à-dire avec des panneaux disposés dans l'espace. C'est-à-dire que M. Buren, pour ceux qui ne le savent pas, et tout le monde le sait, a fait les colonnes de Buren à Paris, Et il a fait aussi ces magnifiques mâts qu'il a distribués dans toutes les villes de France, et qui étaient d'ailleurs à Marseille, qui.
Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. La bibliothèque ferme ses portes dans 30 minutes. Les personnes ayant des documents à faire enregistrer sont priées de se présenter au poste de prêt. Merci.
Bon, excusez-moi, comment ça, j'ai pas l'habitude de faire des conférences. J'ai la langue un peu sèche. Alors maintenant, nous allons passer à Frank Stella. Alors, je vous donne le format de cette œuvre. Bon, ça, c'est pas ce que je déteste pas. Ça mesure 5 mètres 48 de large. Vous voyez, ça fait quand même pas mal, hein. Bon, c'est une œuvre bon, qui peut être supportable dans la mesure où c'est pas du ready-made. Bon. Alors, la prochaine, c'est Joseph Kossuth. Alors là, vous avez une chaise réelle au premier plan. À gauche, vous avez la même chaise photographiée en noir et blanc. Et à droite, au mur, la définition en anglais du mot chaise du dictionnaire. Bon, c'est assez rigolo, mais enfin, on ne peut pas dire que ça soit vraiment génial. Maintenant, nous allons passer à Joseph Beuys. Alors voilà, alors Beuys, par contre, c'est une toile qui s'appelle Eurasia Symphonie de 1963. Il faut dire que M. Beuys, nous allons voir, ne fait pas partie. Ben, ça a été, je crois, le plus important après Marcel Duchamp. Nous allons voir, d'ailleurs, je vais un petit peu vous en parler. Alors, cette œuvre date de 63, c'est tableau noir, craie, feutre, graisse, lièvre et bois. Alors, feutre, nous allons voir pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi il a fait du feutre. Et ensuite, vous en avez une autre. Alors, là aussi, il y a encore du feutre, vous voyez, avec une bestiole empaillée. Ça s'appelle Coyote de 1974. Alors, je vais, suite à ces diapos et afin de mieux cerner ce personnage de Beuys que vous venez de voir, qui fut, comme je l'ai dit, pour les adeptes de l'art conceptuel, le new dadaïste le plus important depuis les années 60, 70 et même 80, après Marcel Duchamp. Alors, nous avons un petit peu en parlé. Là, je ne vais pas tout vous dire sur lui, parce que Joseph Beuys, qui est un artiste allemand, artiste entre guillemets après Duchamp d'ailleurs, qui est né en 1921 à Krefeld et qui est mort à Düsseldorf en 1986. Alors, je vous lis un petit texte sur Beuys, extrait de Misère de l'art de Jean-Philippe Domecq, qui a écrit lui beaucoup plus de choses sur Beuys. Alors, il a écrit par contre, avec sa formule de Duchamp, « Tout homme est un artiste », on peut dire qu'il a fait entrer la démagogie en art. Beuys a mis en évidence les éléments qui lui sont chers, les allégories ritualisées de sa pensée. Et il offre l'image d'un fanatique où il rejouera souvent la scène de l'identification avec le Christ. Alors, toute son œuvre, évidemment, sera marqué par le feutre et par la graisse. Alors le feutre, là, vous le voyez. Alors pourquoi le feutre? On sait que ce feutre et cette graisse, Beuys les a tirés de son expérience de la guerre. Il faut dire qu'il doit la vie à des Tatars qui le sauvèrent en l'enduisant de graisse et le recouvrant de feutre, son avion ayant été abattu au-dessus de la Crimée. Mais, comme le dit Jean-Philippe Domecq, quelle aurait été la signification de sa renaissance dans le feutre et la graisse en cas de victoire de l'Allemagne? Alors, il faut dire que ses parents n'étaient pas pro-nazis, mais les éléments très troublants ont été rapportés sur le parcours de Joseph Beuys, toujours par Jean-Philippe Domecq. C'est un livre que je vous conseille de lire, parce que je n'ai pas le seul, d'ailleurs, sur Misère de l'art, qui vous expliquera beaucoup plus profondément ce que je tente de vous expliquer avec mes modestes mots. Alors, autre chose, en 1997, le musée d'art sacré de Cologne consacra une exposition aux reliques, où à côté de celle de Saint, il y avait, devinez quoi, celle de Joseph Beuys. Et il faut dire que si Beuys fut consacré l'artiste allemand le plus important depuis Dürer, rien que ça, vous voyez. Il faut dire qu'il y en a un autre qui est américain, qui s'appelle Jasper Johns. Voilà, Jasper Johns, qui a fait une œuvre qui a été reprise d'ailleurs par beaucoup d'artistes, il fut lui qualifié carrément le Rembrandt de notre temps, avec ce fameux drapeau américain. Et dans ce qui est à droite, vous avez Canette de bière de 1964 et Cible avec moule de plâtre de 1955. Alors, il faut vous dire que ce monsieur Jones, en 1988, un tableau de Jones atteignit 17 millions de dollars, c'est-à-dire la plus forte cote pour un peintre vivant, avec une toile qui s'appelait Faux départ. Et il faut vous dire que cette cote était sûrement artificielle, parce que, d'ailleurs, à propos de cette fameuse, elle avait été exposée à la Biennale de Venise. Et à propos de la Biennale de Venise, il y avait un homme, l'homme de l'art qui s'appelait Ken Weller, qui était quand même un des plus grands marchands de tableaux que le siècle ait connu, et qui découvrit d'ailleurs Picasso pour lui avoir acheté ses Demoiselles d'Avignon, et Fernand Léger, beaucoup d'autres d'ailleurs, dira aujourd'hui l'attrait du neuf épate le bourgeois, et il trouvera ridicule et puéril la première grande Biennale de Venise en 1966. Alors, avec l'argent et les cotes artificielles, tout devient possible, bien sûr. Et nous allons continuer à ce que je vous donne quand même le titre de ce que vous venez de voir rapidement tout à l'heure. Alors, après Jones, vous avez Robert Ryan, sans titre, de 1961. Après, vous avez Meurtre d'artiste de Pierre Manzoni. Alors là, vous voyez, alors je dis que c'est un véritable pléonasme, parce que si on part du principe que tout homme est un artiste, pourquoi a-t-il précisé d'artiste? Et je pense qu'il aurait appelé excrément humain en boîte, ça aurait été beaucoup plus logique. Ensuite, vous avez Lucio Fontana, concept spatial attente de 1961. De Carl-André Carré d'Alliage de 1969. Alors vous voyez que, alors de Kawara, Homme Kawara, un million d'années passées, c'est-à-dire de 69, vous avez 10 livres réalisés dans 10 boîtes noires qui correspondent évidemment à un million d'années. D'Yves Klein, nous avons, alors ça vous savez ce que c'est un modèle qu'on roule dans de la peinture bleue et qu'on fait imprimer sur une toile blanche, on appelle ça happening, et qui s'appelle Anthropométrie de l'époque bleue, parce que de 58. Alors ensuite vous avez ce monochrome bleu qui est tout simplement une toile unie. De Joseph Kuntz, vous avez, alors Kuntz, vous devez savoir qui c'est, parce que là ce sont des aspirateurs. Mais M. Kuntz, c'est celui qui a rectifié la décoration du musée de Versailles en 2009, je crois, qui est né en 1955, et qui a comme formation, il a passé 5 ans à Wall Street comme courtier, et ensuite il est tombé dans le cinéma porno, ensuite il s'est marié en 91 avec la Cicciolina. Et pour combler le tout, il a été décoré par notre ministre de la Culture à Versailles. Vous voyez qu'on ne recule devant rien chez les officiels. Ensuite, vous avez Piero Manzoni, toujours celui qui a fait la merde d'artiste, qui lui a trouvé beaucoup plus simple de faire une sculpture vivante en 1961 en signant tout simplement sur la fesse droite du modèle. Ensuite, vous avez Richard Serra, sans titre, de 1967, avec Château de cartes à droite. Deva S, répétition 19, qui représentait 19 tubes de 1968. Ensuite, de Robert Morris, sans titre, de 69, Feutre. Alors là, il a un peu pompé sur notre ami Beuys. Fichier de 62, toujours du même artiste. Ensuite de Simpson, coulée de colle, vous voyez que là aussi c'est de 69, de Richard Long, 91, sans titre, alors là vous voyez que c'est une série de bouts de bois, d'Hermann Nitsch, de 74, rituel cher, sueur et alcool, vous voyez qu'on n'en reste pas corps et limède, on fait participer aussi les êtres humains. De Michael Heiser, déplacé.
Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît, la bibliothèque ferme ses portes dans 20 minutes. Veuillez vous diriger vers la sortie afin de faire enregistrer vos prêts. Merci.
Bon, excusez-moi, parce que on a l'habitude ici, mais enfin, c'est pas évident. Daniel Spoeri, assemblée d'objets sur. Oui, bon, ça c'est. Il y en a beaucoup comme ça, mais enfin, je vous en ai mis qu'une. Dans le genre, il y a beaucoup de terres déplacées. De Tony Gragg, objet en bois. Alors là c'est. Voilà, ça c'est. Ensuite, c'est évidemment Bonbon de 1991. Objet en bois, c'est après, voilà, c'est ça. De Tony Gragg. Ensuite, de Automule de 66, Action matérielle. Numéro 25, l'oreille, cuvette, exécution. Alors là, vous voyez que j'espère que l'expo ne va pas durer 15 jours parce que ça va être pénible pour celui qui participe à l'œuvre. De Sarah Lucas, matelas, melon, orange, concombre et seau. Voilà, ça fait partie de ces ready-made. De Tracé et Mine de 98, matelas, linge de lit, coussin plus objet, là on en est à peu près au même point. De Maridio Catelan, cheval empaillé, 97. Bon, ça, heureusement qu'il est empaillé, parce que le pauvre ne tiendrait pas le coup longtemps comme ça. Et bon, là, c'est quand même, ça représente du boulot, ça aussi, c'est Monao avec ce fameux Jean 23, qui reçoit évidemment une météorite. Sur lui de 99. De Marc Di Sovero de 63, Amerigo pour mon père, et de Chamberlain de 65, Toll d'automobile à la casse. Là, on pense évidemment à César. Cette œuvre date de 1965. Alors, une dernière œuvre de Beuys pour la route avec cette chaise recouverte de graisse. Alors, après avoir vu tous ces échantillons d'art contemporain, on peut tout de même se poser la question sur l'évolution de cet immobilisme, parce qu'il faut bien parler d'immobilisme, où ces dates de création ne veulent plus dire grand-chose depuis un demi-siècle, et où 1920, 1960, 1980, 2000, d'ailleurs je regrette de ne pas pouvoir vous présenter des œuvres depuis l'an 2000 à nos jours, mais je pense que ça n'apporterait pas grand-chose, parce qu'il suffit de déplacer les dates, que les choses qui ont été peintes dans les années 80 ou 2000, si je vous dis qu'elles ont été faites dans les années 30 ou 60, on peut y croire, parce que cet art n'évolue absolument pas. Alors je dis toujours l'art contemporain, oui, mais pas le n'importe quoi, vouloir être artiste à tout prix n'est pas suffisant. Et on sait très bien que le dadaïsme d'État et tous les dadaïstes attardés du monde savent aussi que leur petite recette, ils le doivent à Marcel Duchamp, qui a su élever le ready-made au rang d'œuvre d'art en 1917. D'ailleurs, en 2017, on pourra fêter le centenaire du ready-made, ce qui va être rigolo. Ajouter à ça une banalisation de la provocation qui, depuis le temps, ne provoque d'ailleurs plus personne. Et heureusement, comme je dis, que le n'importe quoi n'est pas éternel. Alors, nous allons maintenant, je vais vous présenter un texte qui a été écrit par Raoul Dufy. J'ai fait d'ailleurs des agrandissements pour ceux qui voient un peu moins. Alors, l'art n'est pas une pensée, c'est un fait. Et c'est vrai, parce que l'art n'est pas une pensée pour le peintre. Je dis que l'art n'est pas une pensée parce que, par contre, il provoque la pensée, ça oui. Comme la musique, l'art n'est pas une pensée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imposer une pensée en écrivant, et on peut l'écrire, l'art est une pensée, mais essayer d'écrire une phrase avec de la peinture, c'est pas possible. C'est ce qu'a voulu dire Dufy. Ensuite, pour le peintre, la solution de son problème est dans la boîte de couleurs, comme elle est dans l'encrier pour l'écrivain. Bon, ça aussi, ça veut dire que bien, le côté métier est très important pour Dufy. Et ensuite, ne cultivez pas votre personnalité. Rapportez-vous plutôt au commun des hommes. Et ça, c'est pour le côté humilité. Je pense qu'il a eu raison. Et ne l'originalité, ensuite, est une monstruosité. Alors là, ça peut faire sourire, bien sûr. Mais comme le pense Dufy, ce qui est monstrueux, c'est l'originalité pour la seule idée de provoquer, ce qui n'a rien à voir, bien sûr, avec les qualités plastiques. D'ailleurs, si nous regardons une des dernières toiles de Dufy, voilà, on peut dire que cette œuvre est originale, sans pour cela dire que c'est une originalité gratuite et qui a été faite uniquement pour provoquer. Alors, en conclusion, si l'on considère l'art plastique, si on peut dire que c'est un langage universel, pourquoi faudrait-il un autre langage, qui est celui de l'écriture d'ailleurs, pour expliquer le premier? C'est bien parce que le premier ne veut pas dire grand-chose. Et si l'on pouvait d'ailleurs tout dire avec des mots, il n'y aurait plus d'ailleurs besoin de peindre ou d'écrire de la musique. Alors, maintenant, l'intelligence du discours, comme je dis, n'est pas l'intelligence plastique, et le prolongement du cerveau, pour en venir à une méthode moderne, et la main, bien sûr, et pas l'ordinateur, qui reste évidemment un outil utile et magique, et je vous remercie. Voilà, c'est terminé.